guerre, chambre et France, c'est la règle de trois de Yann Morvan. La guerre, il l'a vue de près, derrière son objectif, bien loin de ses études scientifiques, plus proche de sa spécialisation cinéma à l'université de Vincennes. Son métier de photojournaliste l'a amené à couvrir les principaux conflits des années 80, notamment pour l'hebdomadaire américain Newsweek. Iran, Irak, Liban, Irlande du Nord, Afghanistan, Rwanda ou Kosovo, bardé de prix, il a raconté sa peur, son impuissance et son isolement dans le livre « Reporter de guerre ».
Une guerre, ça n'est jamais photogénique. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui luttent. On ne peut pas parler de photogénique.
Guerre toujours, mais d'un autre genre. Ce rebelle dans l'âme a toujours été fasciné par l'histoire des gangs, rockers, bikers, Hells Angels, skinhead. Il les a immortalisés dans ses ouvrages, Le cuir et le baston et Gang. Il y a même laissé quelques plumes, kidnappé et torturé par la bande d'un certain Joe, alias Guy Georges. Chambre, et plus précisément Chambre 2025, le nom du célèbre appareil qui lui sert à photographier les personnages avec du relief, loin de l'effet trop plat du numérique.
C'est vrai qu'il y a accumulation d'images aujourd'hui partout, tout le monde est photographe. Maintenant, avec la révolution numérique, il suffit d'appuyer sur un bouton et l'image part.
Comme Lord Snowdon, qui s'en servait pour mettre en boîte reine, roi ou princesse, cet ancien formateur à l'École nationale de photographie d'Arles utilise aujourd'hui sa chambre pour immortaliser les miséreux ou les déclassés. France, 2 ans à parcourir l'Hexagone. Résultat de ce périple avec le photographe Éric Bouvet, 80 portraits de Françaises et Français affichés à la gare de Lyon et à celle d'Avignon TGV. La France, un pays formidable que Yann Morvan aime autant qu'il le déteste, mais qu'il a voulu raconter de manière responsable.
Mon père m'avait toujours dit que j'étais un bon à rien, donc je pars du principe que je suis bon à rien et j'essaye d'être bon à tout.
La France des agriculteurs, comme ses grands-parents, la France rurale et industrielle, la France à la marge, la France du confinement, forcément masquée, la France patrimoniale.
Alors, cette exposition, elle s'appelle Hexagone, vous avez photographié la France. Après, vous êtes intéressé longtemps, justement à l'étranger, hein, vos reportages en Irak, aussi bien pour le mur de Berlin. Pourquoi la France cette fois-ci?
Parce que je pense que c'est... Avec Éric Bouvet, on s'est rencontrés un jour de janvier 2017. Et moi, je travaillais avec un labo qui était Porte de la Chapelle. Et tous les jours, je passais, et il y avait cette espèce d'alignement, de tentes. Et avec Éric, on a dit, écoute, il se passe quelque chose dans ce pays, ça va pas du tout, quoi. Parce que j'ai commencé à faire des photos dans les années 70. Et tous les jours, voir tous ces gens dans les rues, le problème, les élections, l'affaire Fillon, Pénélope, la starisation, la communication qui remplaçait les faits, on dit, il faut absolument qu'on raconte cette histoire. On est un peu vieux maintenant. Tout à fait, on a un peu de bouteille, on a pas mal de réseaux, on est sur le terrain. Le problème du journalisme aujourd'hui, c'est de ne pas faire de terrain, parce que ça coûte cher, le terrain. Donc nous, on y est, on n'a pas le choix, hein, avec un appareil de photo. Donc on va essayer de montrer quelque chose. On a fait le tour des revues, on a dit voilà, on va faire un truc sur la France. Pourquoi la Chambre 2025, je viendrai plus tard. Et ça n'intéressait personne. On dit nous, attends, Pénélope, Fillon, c'est le jackpot, là, hein, ce qui est vrai d'ailleurs, pour la presse. Et on a rencontré, alors là je vais...
En 2017. Hein,
ouais. En 2017. On a rencontré, via le ministère de la Culture, à l'époque il y avait quelqu'un qui est chez vous, qui s'appelle Régine Acendo, ouais. Hein, qui était directrice générale des arts plastiques. Et moi j'avais édité un très gros livre qui s'appelait Champ de bataille. Et on est venu avec un projet en disant, bon, on va faire un peu comme Champ de bataille, on va faire un état de la France. Et Régine a dit, ça c'est formidable, on y va. À l'époque elle était au ministère.
Ouais. Alors, la Chambre 2025, pourquoi avoir utilisé ce procédé? Et d'ailleurs, vous l'avez trouvé où, cette chambre? Vous l'aviez déjà?
Moi, j'ai acheté aux États-Unis. Non, non. Il n'y en a pas en France. Il y en avait deux à un moment donné. Il y a deux, pardon, qu'on a acheté une. L'autre
c'est quoi, alors,
c'est quoi et pourquoi vous l'avez utilisé?
Parce que alors, on a parlé du fond. Le fond, c'est les Français, ouais. La dignité, etc. Qu'est-ce qu'être français, etc. Après, il y a la forme. Le problème de la représentation photographique, c'est lié beaucoup à la caméra, c'est-à-dire l'outil qu'on utilise. C'est-à-dire que pour faire du reportage de guerre, j'avais certains types de caméras. On peut faire avec du 6-6 des portraits de la mode. Enfin bref. La Chambre 2025, c'est un procédé, disons, qui va dater de... un peu après la Renaissance, hein, puisque la chambre noire a été inventée au XIIIe siècle, mais elle a été employée par les peintres flamands pour peindre le profane. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne pouvait pas peindre à l'extérieur. Les pigments noircissaient à la lumière ou blanchissaient. Et donc, les peintres allaient sur le terrain, hein, et faisaient un calque sur cette chambre noire, avec l'image, et ensuite retournaient en atelier et peignaient d'après les calques qui étaient faits. Donc, on a une perspective qui date, disons, de... la grande époque de la peinture. Je veux dire, et les grands portraits ont été faits sur ce mode-là.
Et vous avez fait justement 80 portraits sur ce mode. Comment vous les avez choisis ces...
On a fait 400 portraits.
400 portraits, hein. Ouais. 80 portraits exposés.
80 ont été choisis par le comité, un comité de la SNCF qui voulait montrer un peu, disons, une diversité française. Et qui est bien, hein, c'est un bel ensemble. Mais il y en a beaucoup plus. Il y a, j'espère que tous les gens qu'on a photographiés et que je remercie, et Eric aussi la même chose, seront publiés, il y aura d'autres expositions dans d'autres lieux, parce qu'ils sont tous intéressants et sont tous importants. On avait un dénominateur commun du choix, c'était la passion. On s'est dit, ça aurait pu s'appeler Hexagone, une passion française, mais des gens, de tous les gens que j'ai photographiés et qui sont montrés, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier, par leur mode de vie. Et donc ça, c'était très important pour montrer aussi que les Français, c'était pas les grèves, les gilets jaunes, etc. On présente souvent, disons, là, on n'a pas de stars, hein, on n'a pas d'entre-soi aussi. Moi, j'ai éliminé toutes mes connaissances. Hein, on fait pas, c'est pas du journalisme à côté de chez soi en appelant trois copains.
Vous êtes sur une profession aujourd'hui, le photojournalisme. On va voir ça avec vous, Sonia, qui est en difficulté maintenant depuis de très nombreuses années.
Hein. Oui, la crise de la presse a fait beaucoup de mal à la profession. Les tarifs ont baissé, les commandes des journaux, des magazines se font de plus en plus rares. Le photojournalisme est une profession sinistrée qui subit maintenant de surcroît la crise sanitaire que nous connaissons. Dans une tribune publiée le 22 juillet dernier dans Le Monde, que vous avez signée avec plus de 450 collègues, la profession appelle à l'aide, interpelle Emmanuel Macron, Monsieur le Président de la République. L'histoire s'écrit maintenant, donnez-nous les moyens au plus vite de la photographier, de continuer à travailler. Vous avez des nouvelles du chef de l'État ?
Non, il y a eu un âge d'or du photojournalisme. Il y a un âge d'or qui a commencé à la fin des années 70 avec l'arrivée de l'offset et de la couleur. Et après, il faut savoir que tous les grands reporters ont été financés par les journaux américains, Newsweek et Time, qui donnaient des garanties pour aller à l'étranger. Moi, je regardais les images que vous avez présentées de Beyrouth. J'étais à l'hôtel à 300 mètres hein, de l'explosion, etc., pendant 4 ans. Donc, tout ça a été financé par les Américains. Et pour avoir des informations, parce que, comme un peu l'Empire anglais, eh bien, les journaux étaient publiés dans le monde entier et il n'y avait pas encore la télévision directe, CNN, etc.
Et c'était la guerre civile.
Hein, oui, et cet âge d'or est révolu. Voilà. Il faut comprendre, aujourd'hui, on n'a plus du tout dans la même économie, c'est-à-dire que les journaux n'ont plus d'argent, les journaux n'ont plus de lecteurs. Hein, il faut voir, mais c'est terrifiant. Regarde, l'Express, par exemple, n'a plus de service photo, alors que. Bon. Et ça, c'est inéluctable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut faire ce métier, si on veut, témoigner ou faire comme moi, c'est raconter des histoires plutôt, il faut trouver d'autres sources de financement.
Et alors, comment on continue à travailler ?
Eh ben je dirais, chacun est particulier, mais par exemple, dans mon cas, moi, je publie des livres, ce qui est compliqué. J'essaye de faire des livres qui sont intéressants, parce qu'il y a ça aussi. Hein, je veux dire, il ne faut pas tomber dans l'ego. Hein, je veux dire, le problème, beaucoup de photographes aujourd'hui, c'est qu'il y a des fabriques de photographes, il y a des écoles d'art, ouais. où des jeunes gens pensent qu'ils sont investis d'une mission supérieure. Et c'est un métier. Moi, avant de faire un conflit, j'avais 10 ans de photographie. Hein, le premier conflit que j'ai fait, c'était Iran-Irak.
Et là, vous photographiez des Français masqués. Alors moi, ça nous intrigue. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de frustration d'avoir face à soi des visages masqués ? Parce que le visage est expressif, il révèle.
Non, ça, c'était la commande. On a su qu'on exposait Gare de Lyon et Avignon le 1er mai.
C'est, d'accord.
Bon, le 1er mai, Arles a décidé de ne pas être et de présenter à la place.
Mais sur le visage masqué, est-ce que...
Au mois de mai, j'ai fait la première photo le 5 mai, la dernière le 1er juin. Et on nous a demandé, enfin, on nous a dit, il faut des gens masqués pour réactualiser les choses. Donc moi, j'ai 5 personnages masqués. Donc j'estimais, alors ce qu'on appelle, Eric a fait les soignants, hein, puisqu'ils étaient en première ligne, donc on a fait des gens qui avaient eu aussi, quoi qu'ils ne sont pas très éloignés. Alors effectivement, le masque, ça n'a strictement aucun intérêt, parce qu'on ne voit pas le visage. Mais disons, c'était pour rappeler l'actualité, et pour les gens les remettre dans le contexte.
Voilà, en tout cas, ces 80 portraits sont à découvrir entre la gare de Lyon à Paris et la gare Avignon, TGV, il faut bien préciser, parce qu'il y a deux gares à Avignon. Merci beaucoup en tout cas.